Et le journal est présenté par Benoît Bouscarel. Bonsoir.
Bonsoir à toutes et à tous. Plutôt qu'un démantèlement du Royaume-Uni, mieux vaudrait un Brexit sans accord. Theresa May a tenu tout à l'heure un discours aux accents volontiers tragiques au lendemain du rejet de ses propositions par les 27 emmenées par Donald Tusk. C'est l'impasse, d'après le mot de la première ministre britannique, plus que jamais politiquement en danger. Antoine Gignot nous appellera de Londres en début de journal. En Allemagne, le compromis autour du sort réservé à Hans-Georg Maaßen ne passe toujours pas aujourd'hui. C'est la chef du SPD qui revient à la charge et qui demande une autre issue que celle consistant à nommer Maaßen au ministère de l'Intérieur. Explication de Cyril Sauvageau. En France, le ministère de l'Environnement disposera l'an prochain d'un budget augmenté d'1 milliard d'euros. L'annonce en a été faite aujourd'hui et Véronique Robérotte a cherché pour nous ce que pouvait impliquer cette augmentation significative. En revanche, les négociations autour de l'assurance chômage se feront, elles, dans une enveloppe diminuée des 1,1 à 1,3 milliards d'euros par an sur 3 ans. Explication à suivre de Catherine Pétillon. Et puis l'enquête de cette édition, signée ce soir Benoît Colombat, sur la société Palantir, qui fait dans l'analyse de données, dans le big data business, pour le compte de clients qui peuvent parfois être sensibles, comme les services antiterroristes français, par exemple. Rendez-vous avec Benoît Colombat à la fin de ce journal. La livre sterling a perdu ce soir de sa valeur face à l'euro et au dollar. Et la perspective d'un Brexit sans accord, la perspective du no deal, continue, elle, à prendre de la valeur. En début d'après-midi, la première ministre britannique, Theresa May, a parlé d'impasse quant à la situation des négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne après le rejet sans ménagement de ses propositions et du plan de Chequers par les 27 lors du sommet de Salzbourg hier et avant-hier. Bonsoir Antoine Gignot.
Bonsoir.
Theresa May semble avoir perdu la main, d'où la fermeté du ton qu'elle a employé tout à l'heure au 10 Downing Street, à l'image de celui qu'avait employé avant elle Donald Tusk.
Oui, c'est une question de survie politique face à l'Europe qui lui demande de faire de nouvelles propositions, face à la presse britannique qui l'accuse de faire dérailler le Brexit. Theresa May répond avec fermeté, campée sur son estrade, le regard dans l'objectif de la caméra. Personne ne veut plus que moi conclure un bon accord, dit-elle, mais je ne le ferai pas en divisant mon pays. Et la première ministre s'explique. J'ai travaillé jour et nuit en montrant un respect total pour Bruxelles. J'attends la même chose de l'Union européenne. J'attends de nouvelles propositions. Stratégiquement, Theresa May dénonce surtout la supposée tactique de l'Europe qui cherche, selon elle, à mettre le Royaume-Uni au pied du mur. Soit on nous propose de rester dans le marché unique, et à ce moment-là, le Brexit devient une vaste blague, soit on nous demande de donner un statut spécial à l'Irlande du Nord et on coupe le pays en deux. Rien de tout cela n'est acceptable. Il vaut mieux ne pas signer d'accord du tout, précise la Première ministre, plutôt que de s'engager dans un mauvais compromis.
Alors Antoine, on se rapproche clairement de la possibilité d'un no deal. La Première ministre britannique sait qu'elle joue très gros. À l'approche du congrès de son parti, elle est plus que jamais en danger. Mais au-delà des conséquences personnelles pour Theresa May, que se passerait-il en cas de no deal ?
Eh bien, ça reste encore très flou dans son discours. Theresa May évoque rapidement le sort des expatriés, les 3 millions d'Européens qui vivent sur le sol britannique. Vos droits seront garantis, dit-elle, et elle s'adresse aussi aux Irlandais du Nord. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour éviter le retour d'une frontière au milieu de l'île. Mais pour le reste, pas de précision. Sous couvert d'anonymat, un ministre précise dans le Daily Telegraph « J'ai vu les documents de préparation pour un scénario sans accord commercial. Ils sont effrayants. Une possibilité subsiste tout de même, celle d'un nouveau référendum, même si Theresa May s'y oppose. Le dernier sondage YouGov le montre, 45% des Britanniques y sont désormais favorables. »
Merci Antoine Gignot depuis Londres pour France Culture. En Allemagne, le sort de Hans-Georg Maaßen, ancien chef du renseignement intérieur, n'est toujours pas réglé et il provoque toujours de gros remous dans la vie politique du pays. Mis en cause pour ses propos sur les violences racistes de Chemnitz, qu'il niait, estimant notamment qu'il n'y avait pas eu de chasse aux migrants en Saxe, Maaßen avait été démis de ses fonctions, c'était mardi, et directement nommé au ministère de l'Intérieur, ce qui avait pu être considéré par certains comme une promotion déguisée. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Aujourd'hui, la patronne du SPD, Andrea Nahles, a demandé à Angela Merkel de renégocier ce compromis. Comme quoi, dans cette affaire, Cyril, cette affaire lourde de sens, rien n'est vraiment réglé.
Et l'histoire n'est pas terminée, effectivement. Angela Merkel pensait avoir trouvé une porte de sortie à cette nouvelle crise qui plombe son 4e mandat. Mais le recasage de Hans-Georg Maaßen à un poste stratégique au ministère de l'Intérieur a été très mal vécu par ses alliés de la Grande Coalition. Le SPD revient donc à la charge sous la forme d'une lettre signée Andrea Nahles, la chef de file des sociaux-démocrates, lettre adressée à la chancelière et dévoilée par l'hebdomadaire Der Spiegel. « Nous avons commis une erreur », écrit-elle, citant les réactions très majoritairement négatives des citoyens. Cela devrait, je cite, « nous donner toutes les raisons de suspendre et reconsidérer cet accord ». La patronne du SPD était condamnée à ce rétropédalage après les critiques virulentes dans son parti sur cette concession aux conservateurs. Tout est donc à refaire et Angela Merkel elle-même semble résignée à rouvrir le dossier pour trouver une solution durable, pour reprendre les mots de son porte-parole. Même la CSU, le parti conservateur bavarois, la faction la plus à droite de la grande coalition, n'exclut pas de rediscuter. Cette affaire n'a donc pas fini d'empoisonner le gouvernement Merkel. Les liens troubles de l'ancien chef du renseignement avec l'extrême droite, sa volonté de minimiser les violences racistes survenues à Chemnitz en ex-Allemagne de l'Est, tout cela sert de catalyseur aux tensions latentes dans la coalition. Et pendant ce temps, le parti d'extrême droite Alternative für Deutschland se porte mieux que jamais. Il est crédité de 18% des voix selon le baromètre de la chaîne ARD, un point de plus que les sociaux-démocrates.
Merci beaucoup Cyril Sauvageau. C'est mardi que Manuel Valls annoncera sa décision de briguer ou non la mairie de Barcelone. L'ancien Premier ministre français n'a pas fait mystère ces derniers mois de sa tentation pour se présenter au municipal dans sa ville natale. Les élections y auront lieu en mai prochain. En attendant, les appels à sa démission à l'Assemblée nationale en France se multiplient. Mahmoud Abbas était à Paris aujourd'hui, le président de l'autorité palestinienne, sur la route de New York, où il participera la semaine prochaine à l'Assemblée générale annuelle de l'ONU. S'est entretenu avec Emmanuel Macron. Bonsoir Christian Chéneau.
Bonsoir.
Vous revenez de l'Élysée, où les deux hommes se sont effectivement rencontrés, mais sans parler à la presse, contrairement aux usages et contrairement à ce qui était prévu. Alors on sait qu'il devait être question d'argent, notamment lors de cette entrevue. Un des grands enjeux du moment est de compenser les renoncements et autres retraits américains sur le financement de l'UNRWA, par exemple. Ce silence des deux présidents est-il, Christian, le signe qu'aucune solution n'a été trouvée ?
Écoutez, officiellement, l'Élysée a justifié l'annulation des déclarations de la presse pour une question d'horaire. C'est sans doute aussi parce que les deux hommes n'avaient pas forcément quelque chose de substantiel à délivrer. Vous savez, Mahmoud Abbas est un numéro un palestinien très affaibli. De son côté, la France pèse peu dans un dossier monopolisé par l'administration américaine. Alors Mahmoud Abbas est venu chercher à Paris du soutien auprès d'Emmanuel Macron. Pour lui, c'est l'heure de compter ses amis. À Ramallah, les caisses de l'autorité palestinienne sont vides. Les suppressions du soutien financier américains sont des coups très durs. Déjà, dans une note de juin dernier, le service économique du consulat de France à Jérusalem constatait que la situation financière de l'autorité palestinienne était plus que jamais critique du fait de la baisse continue de l'aide internationale depuis 2014. Or, cet apport extérieur est vital pour boucler son budget car elle ne peut recourir aux instruments habituels d'endettement qu'utilisent les États partout dans le monde. Le président français est conscient de cette situation extrêmement tendue et dangereuse. La France doit d'ailleurs participer à l'ONU à une réunion tripartite avec la Jordanie et la Turquie pour renflouer les caisses de l'UNRWA. À New York, Mahmoud Abbas, lui, a bien l'intention de mobiliser la communauté internationale pour compenser le manque à gagner des décisions américaines, une sorte d'appel au secours.
Merci Christian Chéneau. En Italie, la nomination de Marcello Foa à la tête de la RAI est visiblement sur le point d'être confirmée après avoir longtemps été bloquée, notamment par Silvio Berlusconi, furieux de n'avoir pas été consulté sur ce point et sur cette nomination. La radio-télévision publique italienne aura donc probablement pour président un journaliste souverainiste et une personnalité pour le moins contestée. À Rome, Marie Duhamel.
Cheveux ondulés, sourcils épais, l'italo-suisse de 55 ans fut pendant plus de 20 ans rédacteur en chef et grand reporter à Il Giornale, le quotidien de la famille Berlusconi, avant de prendre la direction d'un grand groupe de presse suisse et du courrier du Tessin. Marié, père de 3 enfants, catholique, un parcours aussi dans l'enseignement, voilà le CV du candidat présenté par le gouvernement pour diriger la RAI et, selon les mots du chef du mouvement 5 étoiles, se débarrasser des parasites qui y furent installés il y a des décennies par les partis traditionnels. Et les journalistes italiens sont inquiets, et pas uniquement ceux de la RAI. Les deux principaux syndicats de la profession estime que cette nomination serait une explosion fatale à l'autonomie et à l'indépendance du service public italien. Marcello Foa a certes couvert la chute du mur de Berlin, mais il a aussi relayé de fausses informations sur les réseaux sociaux selon lesquels Hillary Clinton aurait ainsi participé à des dîners sataniques lors de la campagne électorale de 2016, ou encore la police allemande aurait reçu l'ordre l'an dernier de taire des menaces terroristes. Marcello Foa est aussi ouvertement anti-vaccin ou contre le débarquement de migrants en Italie. La presse l'accuse d'être pro-Poutine et soutenu par la Ligue. Il s'en défend, mais c'est bien le chef du parti d'extrême droite, Matteo Salvini, qui semble avoir rendu possible à nouveau sa candidature. Rejetée début août par les parlementaires, elle devrait être maintenant validée, puisque les élus berlusconiens cette fois la soutiendront. Le Cavaliere a en effet obtenu de Matteo Salvini cette semaine des candidatures communes lors des prochaines élections régionales.
Merci Marie Duhamel. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce vendredi 21 septembre est décrété Vendredi Vert ou Green Friday, initiative qui est censée être le pendant écolo du Black Friday, grande fête de la surconsommation. C'est un jour qui est aussi l'occasion pour certaines entreprises, pardon pour les anglicismes, de faire du greenwashing, de se racheter à bon compte en promouvant quelque initiative verte, à grand renfort bien sûr de communication. Le groupe Danone a voulu cette année par exemple se lancer pour cultiver une image d'éco-responsabilité et a mis en avant une opération à plus ou moins 5 millions d'euros aujourd'hui, soit l'équivalent de son chiffre d'affaires quotidien. Les explications d'Anne Lorchouin.
La somme récoltée doit être reversée en intégralité au fonds Danone pour l'écosystème afin de financer des projets de transformation agricole, pas forcément du bio, mais ce que Danone appelle une agriculture régénératrice visant à préserver les sols, la biodiversité et le bien-être animal. Le revenu des agriculteurs n'étant pas un critère retenu par le groupe. Difficile a priori de trouver à redire à cette opération qui n'a pas lieu un samedi, jour de la semaine où les ventes du groupe sont les plus importantes. Et pourtant, des agriculteurs comme des associations de consommateurs émettent quelques critiques. D'abord, la crainte que cette initiative à l'échelle d'un groupe ne vienne remplacer l'action nécessaire de l'État. Comme fait exprès ce Green Day de Danone arrive juste après l'adoption à l'Assemblée de la loi issue des États généraux de l'alimentation. Une loi qui, malgré un an de travail avec toutes les parties prenantes, n'a accouché que de changements anecdotiques. On a l'impression, estime par exemple la Confédération paysanne, que désormais ce sont les entreprises qui financent la transition sur certains segments de marché seulement, avec pour but non pas de changer de modèle agricole, mais de sécuriser leur approvisionnement sur des produits revendus avec une forte marge, les produits bio. Dans le même mouvement, l'agro-industriel Fleury Michon a par exemple décidé de soutenir les éleveurs français de porc qui feraient le choix du bio en s'engageant à leur acheter leur future production pendant 5 ans. Fleury Michon qui est pour l'instant obligé d'importer du Danemark pour satisfaire la demande française de porc bio. Le nouveau ministre de l'écologie de son côté assume « Nous avons besoin des entreprises pour mener la transformation écologique », dit-il.
Anne Lorchouin. Alors en matière politique aussi, les sujets environnementaux, si chers désormais à une opinion publique inquiète vis-à-vis des grands enjeux du moment, notamment climatiques. En matière politique aussi, il faut se méfier des effets d'annonce et des plans com. Bonsoir Véronique Robérotte.
Bonsoir.
Le ministère de l'Environnement vient d'annoncer que son budget pour 2019 allait être augmenté d'1 milliard d'euros, augmentation substantielle. Vous avez cherché à savoir ce qu'il y a derrière cette annonce.
En tout cas, c'était quelques jours après la sortie du gouvernement de Nicolas Hulot, ébranlé par ce départ. Le Premier ministre se voulait rassurant. Édouard Philippe annonçait donc début septembre que le budget du ministère de la Transition écologique serait en forte augmentation en 2019. Résultat d'un arbitrage remporté par Nicolas Hulot, précisait-on à Matignon, mais pas suffisant, semble-t-il, pour le retenir. 1 milliard d'euros, c'est le chiffre donc annoncé aujourd'hui par le cabinet du nouveau ministre, François de Rugy. Nous avons des moyens supplémentaires sur un peu tous les sujets, des transports à la biodiversité en passant par la santé, dit-on pour l'instant laconiquement au ministère de l'écologie. Parmi les postes les plus importants, et bien sûr en direction de la transition écologique, aide directe aux énergies renouvelables, investissement dans les transports propres, mais aussi chèque énergie distribué aux ménages les plus modestes pour les aider à payer leurs factures d'énergie. Alors l'an passé, le ministère de la transition écologique avait déjà vu son budget augmenter de 500 millions d'euros, mais avait dû en contrepartie bien accepter de se serrer la ceinture en moyens humains. Une réduction d'effectifs de plus de 1000 postes demandée à nouveau l'an prochain. Pas de quoi faire de très grands pas dans la transition écologique, disent déjà les associations environnementales.
Merci Véronique Robérotte. La négociation autour de l'avenir de l'UNEDIC, les organisations syndicales étaient reçues aujourd'hui au ministère du Travail en amont de la distribution des lettres de cadrage. L'objectif était de situer les négociations à venir et la réunion vient tout juste de se terminer. Bonsoir Catherine Pétillon. Vous êtes en direct du ministère du Travail. On ne connaît pas encore le détail des négociations à venir entre les partenaires sociaux, mais on sait déjà qu'elles se feront dans une enveloppe diminuée d'1 à 1,3 milliard d'euros par an sur 3 ans.
Oui, on connaît aussi la philosophie et l'objectif général de cette réforme. L'exécutif la résume ainsi, lutter contre le chômage en favorisant l'emploi durable et en répondant aux besoins des entreprises. Alors aujourd'hui, les organisations syndicales et patronales sont sorties attentistes et plutôt refroidies par la présentation de la lettre de cadrage qui leur a été faite. Ils dénoncent une logique budgétaire, vous le disiez, entre 1 milliard et 1,3 milliard d'économies sur 3 ans. Les économies qui se font sur le dos des chômeurs, se sont inquiétés les syndicats à la sortie. Pour faire ces économies, le gouvernement demande aux partenaires sociaux de revoir plusieurs règles d'indemnisation des chômeurs, en particulier les règles de cumul salaire-chômage et notamment d'en limiter la durée, seront aussi concernées l'activité conservée. Il y a aussi l'idée d'un bonus-malus pour contraindre les entreprises qui abusent des contrats courts, dispositif qui suscite une vive opposition du patronat depuis longtemps. Le sujet revient cette fois dans des termes un peu différents. Désormais, il est question de responsabilisation des entreprises pour agir sur les sorties d'emploi évitables. Les termes précis, c'est ce que regarderont les partenaires sociaux. Ils n'ont eu aujourd'hui qu'une présentation orale. Ils devraient recevoir le texte de la lettre de cadrage la semaine prochaine. Et ce n'est qu'après, Benoît, que les organisations diront si, oui ou non, elles acceptent de négocier.
Merci Catherine Pétillon, en direct du ministère du Travail à Paris. 18h15 sur France Culture, c'est le moment de retrouver l'enquête de cette édition avec Benoît Colomba. Bonsoir.
Bonsoir.
Du service investigation de Radio France, on le sait, l'intelligence artificielle et les algorithmes représentent plus que jamais le nerf de la guerre dans le monde des affaires comme dans celui du renseignement. La data science est très porteuse et vous avez enquêté sur une société américaine qui analyse des données en masse pour le compte des services antiterroristes français.
Oui, cette société, elle s'appelle Palantir. C'est une start-up créée en 2004 et qui pèse aujourd'hui 20 milliards de dollars. Son fondateur, Peter Thiel, est un proche de Donald Trump. Alors Palantir, c'est un géant dans l'analyse massive des données pour les banques, les assurances, la police ou les services secrets. C'est aussi une société financée à l'origine par un fonds lié par la CIA. En 2015, Palantir tente une première fois de s'implanter en France dans le traitement des données fiscales, ce qui suscite à l'époque la réaction très vive de la sénatrice UDI, Catherine Morin-Desailly.
Je m'aperçois qu'on a lancé un appel d'offres et que la société Palantir est en passe d'être retenue. Je m'en émeus. J'alerte en disant, attention, on ne peut pas confier à n'importe qui, à n'importe quel type d'entreprise, la gestion de ces données ultra sensibles. Pourquoi va-t-on chercher des entreprises extra-européennes américaines qui n'appliquent pas les mêmes règles que nous?
Alors finalement, Palantir ne sera pas retenu sur ces marchés, mais un an plus tard, la société décroche un contrat de 10 millions d'euros avec le renseignement intérieur français, la DGSI. Sauf que ce contrat avec Palantir, il n'est pas forcément sans risque pour le représentant français du numérique auprès de la Commission européenne, Gilles Babinet. Pour lui, une porte dérobée, ce qu'on appelle un backdoor, un cheval de Troie, peut toujours se cacher dans le système.
On a toujours le risque qu'il y ait un backdoor qui soit mis en œuvre et qui recrache des données essentielles sans que ça puisse être d'une manière ou d'une autre contrôlé. Et ça, c'est un risque majeur en termes de renseignement.
Palantir assure de son côté que la confidentialité des échanges est respectée. La DGSI répond que le système est parfaitement étanche et sécurisé.
Oui, mais les gendarmes, eux, ont adopté une stratégie différente.
Oui, pour leur logiciel de prédiction de la délinquance, ils ont refusé les propositions de l'américain IBM, explique le colonel Laurent Colorégain.
Ce sont des officiers de gendarmerie qui sont ingénieurs, programmateurs, data scientists qui ont créé ce logiciel. C'est un logiciel dont la gendarmerie a la main dessus. C'est 100% français, c'est 100% gendarmerie.
Et justement, aujourd'hui, certaines sociétés françaises aimeraient bien se poser en concurrente de Palantir.
Oui, c'est le cas de Flaminem, une start-up dirigée par un ancien conseiller d'Emmanuel Macron à Bercy. Dans son conseil d'administration, on trouve l'ancien patron de la Société Générale, Daniel Bouton, l'ex-chef d'état-major des armées sous Nicolas Sarkozy ou encore l'ancien directeur du renseignement à la DGSE, Alain Juillet.
C'est encore un travail qui va prendre du temps. Hein. Il a fallu près de 15 ans pour qu'il fasse Palantir. Nous, je pense qu'avec les progrès de la technique et aussi avec la qualité de nos spécialistes, hein, et de nos mathématiciens, nos spécialistes algorithmes et autres, je pense qu'on est capable de le faire ça en à peu près dans le tiers du temps qu'a mis Palantir.
C'est-à-dire
5 ans.
En attendant, la DGSI n'est pas la seule à utiliser Palantir. L'avionneur Airbus, un concurrent de l'américain Boeing, le fait également. Une situation d'autant plus préoccupante que les Américains viennent de mettre en place un nouveau dispositif, le Cloud Act, une loi qui oblige leurs entreprises à fournir des données à l'administration américaine y compris en dehors du territoire américain.
Merci Benoît Colomba, votre enquête est à retrouver en intégralité, en longueur, sur notre site internet franceculture.fr. Un temps gris et pluvieux sur le nord demain, ensoleillé plus au sud, voilà pour les prévisions de Météo France. La perturbation qui est en place sur la Bretagne et au nord de la Seine va d'ailleurs se renforcer au fil des heures et dans la nuit prochaine, les températures maximales atteindront 17 à 22 degrés demain sur la moitié nord et de 21 à 28 degrés sur le sud.